trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Olivier de Béranger est avec nous, le directeur général de la Financière de l'Échiquier. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Grégoire.
David Calfon nous accompagne également. Bonsoir David.
Bonsoir.
Vous êtes le président de Sanso IS et à nos côtés également Eric Venet. Bonsoir Eric.
Bonsoir Grégoire.
Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de la gestion de Montbleu Finance. On suit le spread entre la France et l'Allemagne. On peut regarder le spread entre la France et certains pays périphériques également, comme l'Italie. Bon, la situation à ce stade entre deux tours semble se stabiliser de ce point de vue-là. 70 points de base entre la France et l'Allemagne pour le spread 10 ans. Olivier, qu'est-ce qui est intégré, qu'est-ce qui ne l'est pas à ce stade par les marchés concernant à la fois la gouvernance politique de la France demain et les scénarios potentiels encore devant nous, et puis également en termes de croissance, en termes de trajectoire des finances publiques, qui sont aussi des déterminants fondamentaux pour les obligataires.
Bah, pour l'instant, effectivement, il y a un petit soulagement sur les marchés de taux. On était monté vendredi avant le premier tour jusqu'à 85. On a fait un petit tour à 66, 67 ce matin. Donc on a quand même enlevé une couche de stress. Et la raison fondamentale, c'est qu'il semble exclu qu'il y ait une majorité du RN à l'Assemblée nationale. Et de toute façon, les termes sont un petit peu galvaudés, parce que quand on dit majorité RN, c'est majorité des candidats investis par le RN. Et si on regarde dans le détail les candidats qui ont l'étiquette RN au premier tour, il y avait 63 candidats issus de LR qui étaient investis par Éric Ciotti, donc qu'on peut appeler les ciottistes. Sur ces 63 candidats, il y en a 60 au deuxième tour, ce qui est quand même pas négligeable. Et sur ces 60 au deuxième tour, il y a 38 en tête, dont au moins 20-25 semblent pouvoir, si on fait les reports théoriques, l'emporter assez facilement. Et ce sera important parce que vous savez que pour avoir un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, il faut 15 députés. Donc si les LR, RN et ciottistes arrivent à avoir plus de 15 députés, la situation est pas du tout la même que même une majorité relative du RN, enfin de seuls candidats RN. Donc tout ça a détendu un peu le marché depuis les résultats. L'autre possibilité étant une
vaste alliance. Non mais point important Olivier, il y avait une vraie prime de risque, j'entends, dans un scénario de majorité absolue RN et associés.
Alors la prime de risque avant le premier tour, c'était NFP ou RN.
Ça d'accord. Et évacué depuis lundi.
On peut dire une quinzaine de BP par l'évacuation de la possibilité que le NFP soit 100% au pouvoir. Et là, il y a une autre partie qui est en train d'être enlevée sur le thème. De toute façon, il n'y a aucune configuration dans laquelle des candidats RN, pur RN, puissent avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Donc ça détend un petit peu le marché, même si ça ne résout absolument rien.
Non.
Parce que les gouvernements techniques ou les absences de majorité dont on parle depuis quelques jours, ça voudrait dire qu'il n'y aura aucun effet sur la résorption des déficits budgétaires et aucune mesure fondamentale pour s'attaquer à la dette. Donc tôt ou tard, il y aura forcément une difficulté. Mais à court terme, ça écarte le résultat de dimanche soir prochain qui soit dramatique. Et d'ailleurs, ça se voit même dans la volatilité. Hein. Si vous regardez la volatilité qu'on avait avant le premier tour, elle était assez bien pricée, puisque sur le CAC, on était autour de 25-30 de volatilité sur le week-end, ce qui veut dire qu'on s'attendait à une variation à la hausse ou à la baisse autour de 2-2,5%. C'est exactement ce qu'on a eu lundi, à l'ouverture. Là, si vous regardez ce qu'on a comme volatilité sur le résultat de dimanche, on est entre une variation du marché entre 1 et
1,5.
Donc ça veut dire que je ne vais pas dire que la poussière retombe, mais en tout cas, l'anxiété est moins paroxysmique qu'elle ne pouvait être il y a 10 jours.
À quelle vitesse est-ce que le marché obligataire va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire se focaliser sur la question de la croissance, sur la question de la trajectoire des finances publiques françaises, qui était déjà un gros morceau en tant que tel depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois?
Bah, de toute façon, on est en procédure d'avertissement, je dirais, comme d'habitude, ou comme souvent, en tout cas. Donc ça, c'était déjà le cas avant. Et puis, ce sera un petit peu qui sera le Premier ministre, comment il s'organisera, avec quelle majorité. Et là, je reviens sur les 60 candidats ciottistes au deuxième tour. Eux, ils ne sont pas pour la retraite à 60 ans. Ils ne sont pas non plus pour la retraite à 62 ans. Je vous rappelle qu'ils n'ont pas voté la réforme Macron parce qu'ils la trouvaient trop light, pas assez dure. Ils ne sont pas pour l'augmentation du SMIC. Ils ne sont pas pour tous ces genres de mesures qui sont pourtant dans le programme commun, si je puis dire, RN LR Ciottiste. Donc là, c'est comment le gouvernement éventuellement s'organisera qui donnera le ton. Mais je dirais qu'on a un peu, on a acheté un petit peu de temps.
De temps, d'accord.
Au moins jusqu'à la loi de finances de
l'automne.
Ouais. Si jamais il y a un gouvernement qui se forme et qu'on est capable de former une loi de finances.
Ouais. Bon. Vos commentaires, vos réactions sur cette dimension politique, alors là spécifiquement française aujourd'hui, et la manière dont les marchés y réagissent aujourd'hui, David.
Ce qui est sûr en tous les cas, c'est qu'on ne reviendra pas de sitôt au spread qu'on avait avant. Hein. Voilà, il faut garder en tête la séquence. Historiquement, on était plutôt à 20 points de base de spread OAT Bund. Ça, c'était quand tout allait bien. On est passé de 20 à 40 sur la prise en compte de la dégradation des comptes publics. On a fait la séquence 40-80. Ouais. Il est tout à fait probable que, quelle que soit l'issue de ces élections, on rentre dans un régime qui nous maintienne autour de 60 points de base si tout va bien.
Voilà. D'accord.
Avec possibilité d'exagération.
Quelque chose structurellement qui a changé dans le statut de l'OAT par rapport aux autres dans le marché obligataire.
On est passé, c'était un pays qui était considéré comme stable avec un gouvernement qui avait ses travers, etc. Mais globalement, pour l'économie, en tous les cas, considéré comme pro-business, avec une fiscalité qui était... Il y avait un semblant de stabilité et d'engagement là-dessus. Tout cela a volé en éclats. Ouais. Puisque, de toutes les manières, quel que soit... bien entendu.
Et ça compensait d'ailleurs la faiblesse qu'on pouvait avoir sur l'aspect finance publique stricto sensu.
Hein. Tout à fait, tout à fait. Et on voyait bien d'ailleurs récemment dans le phénomène Choose France, hein, qui était où on avait Jamie Dimon, président
patron de JP Morgan,
qui avait quand même fait un éloge incroyable du président de la République en disant c'est merveilleux tout ce que vous avez fait, on est là, on soutient, on investit, etc. Je ne suis pas sûr qu'on refasse l'exercice dans deux semaines. Je ne suis pas sûr qu'il y ait le même enthousiasme. Voilà. Et donc, il va y avoir un temps d'arrêt, ne serait-ce que pour voir comment on se sort de cette situation-là. On ne dit pas que ça va être catastrophique, mais on dit juste qu'il faut qu'on y voit plus clair. Et il y a donc une prime de risque, une prime d'incertitude, de manque de visibilité. Encore une fois, sur les marchés, ce qu'on aime, c'est la visibilité. Et là, très clairement, il n'y en a plus.
Ouais.
Donc c'est vraiment ça le sujet.
Le marché aime bien se rassurer avec des parallèles historiques. C'est vrai que dans l'histoire européenne, des situations politiques compliquées, il y en a eu plusieurs. Bon, on parle de Meloni en Italie, Orban en Hongrie. On voit d'ailleurs que peut-être au Parlement européen, Marine Le Pen est en train de basculer d'un groupe à l'autre pour rejoindre la nouvelle alliance menée par Viktor Orban des ultra-conservateurs, si je puis dire. Il y a eu l'épisode Truss, évidemment, au Royaume-Uni, donc c'est 44 jours et une crise de marché quand même assez sévère. Meloni, je disais, ça s'est plutôt fait en douceur, d'une certaine manière, comparé à ce que l'Italie a pu connaître pendant la crise souveraine. Enfin, il y a un parallèle qui convient à la France où tout est spécifique, tout est sur mesure, entre guillemets, pour chaque pays.
Je pense que...
Il y a eu la Grèce aussi, bien sûr. Je remonte à la Grèce de Tsipras et des portes qui claquent et des référendums, etc.
Je ne pense pas qu'il y a un parallèle très clair à faire. En revanche, il y a un point commun dans tout ça. C'est qu'à la fin, il y a eu un rappel à l'ordre. Donc, en Grèce, à la fin, ça se termine avec le FMI. Liz Truss, c'est une augmentation, là on ne parle pas de 40, 60, 80 points, c'était 250 points de base de hausse, c'est les fonds de pension qui appellent en disant nous
ça saute.
C'est fini, on saute. Donc il y a toujours un rappel à l'ordre des marchés qui peut servir de toutes les manières de garde-fou. Et Meloni, il n'y a pas eu tout ça, pourquoi ? Parce qu'elle a totalement dilué son programme économique et elle a tout de suite évalué. Je pense que c'est la responsabilité du pouvoir. Voilà, quand on prend les clés et qu'on commence à regarder un petit peu ce qu'il y a sous le capot, etc., on se dit, bon, OK, je vais changer mon discours. Et elle a eu un discours beaucoup plus pro-européen que ce qu'elle avait pu avoir par le passé. Et c'est ça qui l'a sauvée. Ouais. Mais je pense qu'elle n'aurait pas eu
avec la tête... Avec 200 milliards de fonds Next Gen EU qui sont attribués à l'Italie, et qui sont quand même une manne européenne suffisamment intéressante pour ne pas se couper totalement de Bruxelles et de la Commission. Non, mais ça joue beaucoup. C'est un levier, par exemple, que l'Europe n'a pas tellement sur la France.
C'est vrai. Mais, encore une fois, je pense qu'une situation où, à la prochaine émission d'OAT, il n'y a plus personne qui se présente, et puis on se retrouve à devoir payer 100 points de base de plus, je suis sûr que, quel que soit le gouvernement en place, il y a quelqu'un qui va faire l'addition et qui va vite aller expliquer que c'est pas le bon chemin. Donc, j'ai envie de dire, alors je ne dis pas que c'est rassurant, mais en tous les cas, je pense que de toutes les manières, quels que soient les écarts qui sont faits, à un moment donné, il y a un rappel à l'ordre parce qu'il y a une réalité économique. Et cette réalité économique, c'est que, quelque part, il faut faire tourner le pays, il faut payer les fonctionnaires, il faut payer un certain nombre de choses et on ne peut pas faire n'importe quoi.
Le marché se rassure avec des garde-fous disciplinaires qui semblent suffisamment solides pour encadrer, j'allais dire, la France dans sa nouvelle gouvernance politique, Eric.
Je pense que les garde-fous sont là. Après, 70 points de... Je pense que c'est pas très cher payé, en fait, les points de spread. En fait. Le marché va aller plus loin parce que ce qu'on n'a pas bien vu, c'est que pour moi, le problème n'est pas institutionnel, il est que dans la trajectoire de croissance, ça change tout. Quoi. Parce qu'effectivement, comme vous disiez, on était dans une business friendly, il y avait quelque chose, effectivement, on a tiré les capitaux. Là, on va être à l'arrêt pendant un petit moment, quand même, mais y compris la consommation, parce que je pense que.
Y compris dans le cadre d'une majorité relative qui ne verrait pas forcément Jordan Bardella arriver à Matignon et qui donnerait l'idée d'une France ingouvernable.
De toute façon, il faudra du temps pour voir que ça marche. C'est le bon scénario, c'est le meilleur des scénarios, mais il faudra au moins 3 mois pour attendre que d'un côté M. Mélenchon râle un peu, que ça fasse pas tanguer, d'un côté, ainsi de suite. Donc pour que ça soit à peu près solide, il faudra un certain temps. Donc la dynamique de croissance que l'on avait depuis 3 mois, notamment en France, elle s'arrête. Et du coup, se pose un problème de déficit, en fait. Et de recettes fiscales. Et donc, ça peut arriver un peu plus vite, le dire, bon, maintenant, il faudrait peut-être...
Donc, le premier garde-fou, ça va être le spread, ça va être le marché, effectivement.
Mais pour moi, d'abord, c'est le minimum maintenant, on descendra plus en dessous. À moins qu'on trouve la recette miracle d'un accord à l'Assemblée. Ce qu'on n'a jamais su faire, mais pourquoi pas.
Que l'Allemagne se mette à émettre massivement de la dette, financer de quelconque projet, j'en sais rien. Vas-y, finis, Eric. On reviendra pas, d'accord.
Mais 70, c'est pas.
Le risque, c'est plus. D'accord.
C'est clair.
D'accord. C'est très asymétrique pour vous de ce point de vue-là.
D'autant plus que, j'intervenais, mais ce qui m'a frappé avec les Allemands, c'est que tout de suite, ils sont déjà montés au créneau en disant que la BCE n'avait pas intérêt à acheter des OAT pour essayer de calmer le jeu tout de suite, qu'on n'était pas du tout. Qu'ils étaient déjà très vigilants sur le côté.
Oui. Après, c'est une sortie qui a fait réagir, d'ailleurs, parce que l'indépendance, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que, c'est pas non plus aux Allemands de dire à la BCE ce qu'elle a à faire de ce point de vue-là. D'ailleurs, quel serait le rôle de la BCE? Enfin, quel peut être le rôle de la BCE dans cette affaire?
Sûrement pas.
Est-ce qu'il y a un rôle pour la BCE aujourd'hui vis-à-vis de la France?
Alors, je pense pas qu'elle utilise les outils de anti-fragmentation si on fait n'importe quoi sur le budget français. Là, je pense que ce sera pas le cas. Mais je crois quand même que ça renforce le scénario de baisse des taux courts plus rapide que prévu. Pour deux raisons. La première raison que vient d'évoquer Eric, c'est que la deuxième économie de la zone euro, d'une manière ou d'une autre, ça va freiner plus fort que ce à quoi on s'attendait. Ça va ralentir plus fort que ce à quoi on s'attendait. Le président de la Fédération des PME ce matin disait qu'on avait perdu un trimestre de croissance. Il exagère sûrement. On n'a pas perdu un trimestre en 15 jours, mais quand même. De manière anecdotique, si vous regardez tous les chiffres de démarrage des soldes, c'est catastrophique. Alors qu'on a un taux d'épargne en France et en zone euro qui est largement supérieur aux moyennes historiques. On regarde souvent le taux d'épargne en fonction des revenus, mais c'est plus intéressant de le regarder en stock en fonction du PIB. Et en Europe, on a 8% du PIB d'épargne. Aux États-Unis, c'est à peine 2%. Donc, c'est-à-dire qu'à tout moment, si les gens ont confiance, on peut injecter beaucoup de croissance. Donc là, ça va s'arrêter. Donc, ça renforce le scénario de baisse des taux de la BCE. Et en plus, c'est plus habile, pour revenir à ce que disait David, c'est plus habile d'aider un gouvernement français qui est un peu dans la panade en baissant les taux courts, plutôt que d'utiliser des outils anti-fragmentation pour lesquels la Bundesbank va vous dire tout de suite...
Non, oui, ça se retrouve à Karlsruhe demain, ça, oui, évidemment. Oui,
c'est clair. Oui.
Donc pour moi, ça renforce le scénario de baisse des taux en zone euro. Donc,
l'inflation le permettrait. Enfin, je sais pas.
Le dernier chiffre, 2,5, ça va, quoi.
D'accord.
Donc c'est raisonnable. Donc, et c'est toujours pareil, on est à 4,25, donc on a de la... De la poudre pour baisser les taux. Il ne s'agit pas de les remettre à 0 ou 2% comme avant, mais on peut sûrement faire 100 BP de baisse des taux dans les 6 mois qui viennent sans que ça remette en cause la stabilité monétaire de la zone, et ça aidera notamment la France.
Ouais. Au passage, là, je sais pas, sur le Royaume-Uni, vous avez suivi un peu, ça vous intéresse, 8 ans après le Brexit, de voir le Labour. Alors, c'est plus le Labour de Corbyn, c'est pas non plus le New Labour de Tony Blair, c'est le Labour de Keir Starmer. Voilà, c'est ça, c'est le Labour 2024.
En tous les cas, c'est plus modéré.
Ah, oui, je trouve que, alors, ça a pris 8 ans, hein.
Oui.
On est passé par Boris Johnson, Truss, etc. Enfin, il y a eu un pic populiste. Au Royaume-Uni, mais qui semble se détendre un peu aujourd'hui. D'accord avec ça, David, ouais.
Tout à fait, et c'est intéressant parce que j'ai reçu ce matin, ça m'a fait sourire, j'ai reçu ce matin de la part d'un intermédiaire de marché tout un papier en expliquant que, ça y est, le marché UK, c'était quoi, le marché britannique.
C'est reparti.
C'était la nouvelle Suisse, quoi. C'était le nouvel endroit où on pouvait finalement investir en étant tranquille. Voilà, c'était l'endroit où on était serein et où il n'y avait plus de problèmes. En plus, le marché avait sous-performé depuis des années, c'est pas cher, voilà. Donc, et il y en avait deux pages, hein, sur le côté, ça y est, maintenant, vous pouvez revenir sur le marché anglais.
Mais c'est... Voilà.
C'est pas totalement...
Et on lit ça, oui, on lit ça, je veux dire, ça ring a bell, justement, ça interpelle en se disant, tiens, il y a peut-être une prime qui va, là aussi, disparaître.
Ça interroge, encore une fois, un pays où on sent que c'est à peu près calme et on va pas avoir tout d'un coup, on va pas se réveiller le lendemain avec une surprise qui vient de nulle part, avec un... encore une fois, c'est la prime à... il y a toujours une prime à la visibilité et à la clarté des choses.
Ouais. Enfin, c'est la visibilité dans le pas grand-chose. Ça leur a coûté quand même 170 milliards, leur Brexit. Hein, donc,
Ah oui, non, non.
Ah oui,
la chute.
Ah non, mais
on est donc, bien d'accord. Okay,
c'est 8 ans, effectivement. Bien sûr.
La thèse qu'on soit un point bas est quand même crédible au Royaume-Uni. Oui. Les valos, quand même, étaient très décotés. Oui. Les flux internationaux se sont détournés depuis le Brexit du marché anglais. Donc, c'est vrai que je pense que vu d'un fonds de pension californien, vendre de la France pour acheter du UK, ça paraît complètement idiot. Hein,
dans le concours de beauté des marchés, effectivement, l'Europe est un peu, la France est un peu moins en beauté, mais d'autres pays sont en train peut-être de retrouver un peu plus d'intérêt. Ça nous amène à dire aussi un mot de la politique américaine, et de ses conséquences sur le plan de l'investissement, sur le plan des marchés. Il semble quand même que là, le scénario Trump est pris au moins un avantage important, voire peut-être décisif pour le 5 novembre, Eric.
Oui, ça a l'air, comme on dirait l'autre, ça a l'air.
Donc c'est bien sur la base de cette idée-là qu'il faut réfléchir aujourd'hui en tant qu'investisseur.
C'est marrant, hein, c'est rassurant, c'est tout de suite, on s'est dit, bon, donc c'est bon parce que Trump va lâcher les chevaux, va injecter, donc les taux. C'est bon pour le business, les taux longs vont remonter, hein, puisque de toute façon, et puis la Fed est là si jamais ça part un peu en vrille, donc c'est le meilleur des scénarios. Ouais, enfin... Oui, donc il y a on voit un peu plus clair qu'il y a 15 jours, c'est-à-dire que globalement, il a l'air de...
La grande différence avec 2016, c'est quand même que là, tout le monde regarde un peu plus le niveau d'endettement des États-Unis, chaque émission de treasuries est quand même scrutée d'un peu plus près, etc. C'était moins le cas en 2016.
Oui, alors oui, on est rassuré parce qu'on a déjà eu Trump 1, donc on voit à peu près ce que sera Trump 2, mais de côté, il revient et la carte blanche pour tout faire, hein. Y compris tout ce qu'il veut, puisqu'il est immunisé. Hein, donc, il a l'immunité, donc...
Oui, Bah, la question,
je suis pas sûr que.
Oui, enfin le Congrès. Visiblement, là, il y a quand même un momentum, y compris pour le renouvellement de la Chambre et d'un tiers du Sénat, qui vont plutôt en faveur des Républicains. C'est, ça peut s'annoncer comme une vague rouge totale de la présidence à l'ensemble du Congrès.
Oui, non, mais ça, mais ça me donne quoi par rapport au marché financier
C'est ma question. Coup, voilà. C'est ma question. Oui. Je sais pas.
On a la visibilité. Bon, plus d'inflation. Les taux longs sont pas prêts de redescendre.
Ouais.
Et les baisses de taux pour 2025, on peut les attendre.
Ouais. Oui, ça obère le calendrier 2025 pour la réserve fédérale américaine. Olivier, oui, d'accord avec ça. Je sais pas, Trump.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, pour l'anecdote, juste avant de venir, je consultais mon site de paris favori sur les élections. Non, qui s'appelle Election Betting Odds.
Ah, très bien.
Et Kamala Harris vient de passer devant Joe Biden en probabilité d'être la prochaine présidente des États-Unis. Donc, on sait que je me rappelle plus exactement la date, mais c'est dans la deuxième quinzaine d'août que le Parti démocrate doit
15-19, je crois,
finir de donner l'investiture définitive à son candidat. Je pense que jusque-là, là, ça va être. Ça va être secoué. Après, pour les marchés, je suis assez d'accord avec Eric, il n'y a pas grande conclusion à en tirer, à part les marchés de taux et la remise en cause des baisses de la Fed en 2025. Et qu'est-ce que ça va faire de la concentration? C'est quand même ça, plutôt, pour moi, le vrai sujet. On le sait tous, on a les 10 premières valeurs du S&P 500 qui font 35% de l'indice, mais qui ne font que 23% des résultats. C'est quand même un écart qui commence à être un peu tendu. Donc, quels vont être les actes de l'administration Trump, s'il y a une administration Trump, contre eux, ces 10 grosses valeurs qui trustent pas mal de segments de la technologie, c'est difficile à dire. Je vous rappelle que quand il y a eu l'élection de Biden, on s'était dit qu'il va peut-être s'attaquer au monopole, il va peut-être être un peu plus dur. Il ne s'est rien passé. Je pense que Trump est tellement imprévisible que pourquoi pas quelque chose qui vienne fissurer cette dominance des 10 plus grosses valeurs américaines.
Le contre-argument étant toujours de dire que si l'objectif prioritaire des États-Unis est d'empêcher la Chine d'être la première économie mondiale, il y a aucune justification à affaiblir trop ces géants technologiques.
Tout à fait, sauf que l'écart quand même entre maintenant la Chine et les États-Unis, notamment à cause de la baisse de la devise chinoise et du maintien d'un dollar plutôt fort, fait que en quelques années, alors qu'ils étaient sur le point de se rejoindre, le spread, puisqu'on parle de spread aujourd'hui, il commence à être bien plus large qu'avant.
Donc avec cette longueur d'avance, les États-Unis un peu de marge de manœuvre,
pourquoi pas en tout cas.
Pour re-régler la situation et l'environnement des grands groupes américains.
Eric, ce qui est certain, c'est qu'on aura un peu plus de complications dans la géopolitique, parce que ça sera encore un peu plus contre la Chine, et donc relocalisation par grands groupes, grandes masses, États-Unis, Europe, et puis Chine, et puis voilà. Donc, du côté du commerce extérieur, il n'y a pas grand-chose à attendre sur le multiplicateur extérieur. Donc, un peu moins de croissance, un peu plus de recentrage sur la consommation intérieure. Donc, de toute façon, c'est inflationniste.
Moins de globalisation.
Et la Chine restera ininvestissable pour les investisseurs américains, ce qui est quand même.
Oui.
Ce qui n'était pas forcément le scénario central si Biden était réélu. Enfin, est réélu. Ouais.
Bon, la Fed va pouvoir baisser ses taux dès le mois de septembre, en attendant de savoir ce qui se passera le 5 ans. Non, mais je veux dire, est-ce qu'ils ont une fenêtre de tir qui va le permettre à la lecture, en tout cas, des dernières données qu'on a pu avoir?
Oui, je pense que là, et les chiffres d'inflation et les chiffres d'emploi. Alors, il faudrait un dernier. Si on pouvait avoir un mauvais non-farm payroll vendredi et des early earnings qui sont dans ce à quoi s'attend la Fed, oui, je pense que septembre, c'est tout à fait possible. Et puis une deuxième
en décembre,
c'est le scénario central. C'est plus, comme on disait tout à l'heure, le chemin 2025 qui, selon les résultats de l'élection et les majorités ou non au Congrès et au Sénat, serait. Enfin, pourrait remettre en cause ces quatre baisses. Mais là, franchement, oui, on voit que le secteur des services, qui était un secteur qui maintenait, notamment dans les prix et dans les salaires, des augmentations au-dessus de ce à quoi veut la Fed, c'est en train de se calmer. On a des ISM quand même qui sont moins fringants qu'avant. On voit que dans les enquêtes d'emploi, dans les services, sur les intentions d'embauche, c'est quand même en train de ralentir. C'est pas l'effondrement, hein, mais c'est en train de ralentir. Et c'est ça quand même, c'est la même chose en zone euro, hein, d'ailleurs. C'est les services qui posent problème. Hein, les produits manufacturiers, tout ça est revenu.
Ah oui, depuis, c'est en déflation.
Depuis longtemps.
Hein, oui, bien sûr.
C'est, donc, oui, il y a un chemin pour baisser les taux en septembre et en décembre.
Et ce qui empêcherait la Fed de baisser peut-être autant qu'elle le souhaite ou qu'elle le projette aujourd'hui, c'est en 2025, c'est parce qu'une administration Trump remettrait de la croissance et de l'inflation, ou est-ce que ce serait avant tout de l'inflation avec un régime de croissance peut-être un peu plus médiocre. Enfin, l'idée d'une stagflation qui serait peut-être bloquant pour la réserve fédérale américaine.
Peut-être un petit peu des deux, notamment si les prix de l'énergie... Là, les prix de l'énergie ont rebondi quand même depuis quelques semaines. Donc bon, c'est ça qui ferait que la Fed serait empêchée de baisser ses taux. Et n'oublions pas la géopolitique. C'est-à-dire que si c'est Trump qui prend les rênes de la Maison Blanche, qu'est-ce qui va se passer en Ukraine, qu'est-ce qui va se passer avec les Russes, donc qu'est-ce qui va se passer pour le marché de l'énergie et du gaz, qui est quand même assez lié à tout ça pour nous Européens. Il y a quand même des questions qui sont posées pour le moment et dont on n'a vraiment pas le début d'une moindre réponse.
Que vont nous dire les entreprises là dans une dizaine de jours avec les publications qui arrivent? Eric, bien sûr. Et puis
je pense qu'elle va baisser ses taux comme la BCE, c'est-à-dire que pour acter la désinflation,
accompagner la désinflation.
Voilà, point. D'accord. Et après,
mais on en fera pas plus.
Elle peut pas en faire plus parce que Trump, peut pas savoir vraiment du coup. Donc elle va le faire et puis elle verra. Ou soit peut plus remonter parce que effectivement on part un peu en
peut plus baisser,
Ouais. Mais elle va le faire quand même parce que si elle le fait pas, alors là pour le coup.
Oui, puis c'est petite assurance quand même aussi pour la suite, j'imagine. Oui.
Ouais. Donc la presse c'était
les entreprises, je sais pas, on va avoir les publications qui vont revenir, ça m'intéresse. Alors c'est vrai que le deuxième trimestre, la fin du deuxième trimestre est marquée par le choc d'incertitude autour de la France et peut-être un peu plus largement en Europe, mais au-delà de ça, le business a pu quand même se dérouler normalement.
Ouais, sauf que on s'aperçoit que la croissance, le chiffre de croissance aux États-Unis du premier trimestre de la consommation, c'était 2.
Ouais.
Plus 1,5 et maintenant 1. Donc on risque d'être surpris par effectivement l'atonie de la consommation en général. Quand vous voyez Nike moins 20, ça fait mal.
Gros warning.
L'Oréal, ainsi de suite. Donc je pense qu'on va être un peu étonné du chiffre d'affaires, en fait. Et auquel cas, ça risque de faire un peu mal. Donc il faudra avoir du cash pour le ramasser parce qu'on sera étonné. Donc comme on sera tellement étonné que
les réactions peuvent être violentes. On a déjà vu, vous avez cité Nike, avec L'Oréal sur un propos du boss, tout de suite ça a perdu 5-6% facile.
Donc je pense qu'on va avoir ça, c'est-à-dire que pendant une quinzaine de jours, 3 semaines, on va avoir effectivement, si vous communiquez bien, c'est juste normal. Par contre, on va avoir un paquet de trucs à moins 10, moins 15.
Et pour vous, dans l'idée toujours un peu contrariante que vous aimez défendre, ça va être des...
J'achète.
Ouais, ce sera des points
d'entrée. Oui, parce que je pense que...
Vous arrivez à vous projeter au-delà de l'élection française, au-delà du 5 novembre.
Parce que les taux rebaisseront, de toute façon. J'achète pas forcément le marché français, puisque c'est un peu plus compliqué, mais si on prend les grandes entreprises, L'Oréal, le marché français, on s'en fout, globalement.
Oui.
Ça joue pas beaucoup, ça joue à la marge. Par contre, l'effet. Je pense qu'on n'a pas intégré vraiment le ralentissement plus fort que prévu,
d'accord,
je pense.
Ouais.
Donc, d'où un excès, d'où profiter de l'excès, pour moi.
Ouais.
C'est la seule chose qu'on peut faire qui me paraît pas trop bête.
Qu'est-ce que vous attendez des résultats d'entreprise, des discours qui vont aller avec, David? Jusqu'à présent, chaque trimestre, ça a été quand même plutôt un facteur de soutien pour les marchés actions depuis quelques temps maintenant. Est-ce que là, on attend encore ce genre de soutien dans le contexte qu'on a pu décrire, macro et politique?
Ce qui va véritablement être à surveiller, effectivement, c'est au niveau des marges. C'est parce qu'il y a effectivement les entreprises, mine de rien, on parle, si la Fed n'a pas baissé ses taux tout de suite, c'est parce que le marché de l'emploi, il est encore solide, c'est parce que les salaires continuent d'augmenter. Et donc, on arrive à un moment où, normalement, au niveau des marges, ça pince un peu.
Ouais. On a arrêté d'augmenter les prix tel qu'on le faisait il y a encore un an ou deux.
Là maintenant, ça y est, les consommateurs ne peuvent plus suivre au niveau des hausses de prix. Donc l'entreprise sait que si on augmente le prix de vente, on perd du client, on perd du chiffre d'affaires. Donc ça, de ce côté-là, ils sont coincés. Et de l'autre côté, il y a l'inertie des salaires qui continue de monter. Voilà. Donc j'ai envie de dire que c'est le trimestre qui est un petit peu à risque.
D'accord. Là, le marché anticipé, ça pas du tout. Quand on regarde les valos, c'est...
Non, pour le moment, j'ai l'impression que c'est plutôt un environnement. Ce qui est pricé est plutôt assez. On a pricé un scénario qui est plutôt rose.
Hein, d'accord.
Donc de ce côté-là, voilà, il faut juste être vigilant là-dessus. Encore une fois, on risque d'avoir un trimestre avec des dispersions assez fortes, avec justement. Un écart assez significatif entre les bonnes annonces et les mauvaises annonces. Donc, ça risque d'être un parcours un peu miné où, du jour au lendemain, voilà, de temps en temps, on se réveille.
Oui, avec un moins 20.
Des choses qui vont être assez difficiles à prévoir. Mais globalement, au niveau des indices, ce n'est pas forcément catastrophique. Hein. C'est, voilà, ce qu'on voit,
c'est du titre par titre.
Exactement. Du titre par titre, du conjoncturel, une mauvaise annonce et des sanctions, effectivement, quand sanctions il y aura, des sanctions violentes.
Bon, vos anticipations sur cette période de publication de résultats, et puis je regardais encore la volatilité du marché américain, le VIX est à moins de 12. Quoi. C'est-à-dire qu'on est vraiment en eau, je ne parle pas d'euphorie, mais peut-être début de quelque chose d'un peu complaisant.
On regarde les estimations de croissance des résultats, aux États-Unis, c'est plus 9 quand même. Hein,
sur le trimestre.
Deuxième trimestre 2024 comparé à deuxième trimestre 2023. Et en Europe, pour la première fois depuis 5 trimestres, c'est plus 3.
C'est positif.
Donc on a quand même des anticipations qui ne sont pas faibles. Hein. Je vous rappelle que la séquence en Europe, c'est on avait fait 0, moins 10, moins 11, moins 6, moins 3, et là on fait plus 3. Donc ça veut dire que le marché s'attend à des résultats plutôt corrects. Donc il va avoir, à mon avis, exactement ce que disaient David et Eric à l'instant, c'est que le price action des titres qui déçoivent, ça va être violent. Et d'ailleurs, on l'avait vu au Q1, c'était pareil. Hein, au premier trimestre 2024, toutes les boîtes qui ont déçu, les Philips, les Stellantis, c'est du moins 15, moins 20, moins 10 sur les publications. Donc, on va regarder ça, mais c'est vrai que si on regarde dans le rétroviseur jusqu'à la fin du deuxième trimestre, tout allait bien. C'est-à-dire que la macro
s'est améliorée
en zone euro en relatif.
On parlait d'un redécollage de l'Europe.
Les flux commençaient à arriver. Il y avait des frémissements sur les small and mid cap. Enfin, il y avait des choses plutôt positives. Le tout dans un environnement où la valo en Europe est pas chère. On a 13 fois les résultats attendus. On est plutôt à 22 fois aux États-Unis. Donc, il y avait un cas pour l'Europe de valo relatif qui était intéressant. C'est sûr que si la politique française vient un peu mettre le bazar dans tout ça, c'est pas agréable. Mais cela dit, et on en parlait ce matin en réunion de gestion, faut pas oublier que la France... c'est moins de 3% du MSCI World. Donc, on parle d'épiphénomène. Hein.
Oui.
Microsoft, Apple, Nvidia, c'est
4,5.
On se regarde
pour un investisseur internationalisé, c'est la France, mais ni plus ni moins que la France. Quoi.
On a quand même, pour la première fois depuis 5 trimestres, des attentes de résultats en hausse en Europe. Raisonnable, hein, plus 3, mais quand même, va falloir les faire. Et puis, il y a un côté rétroviseur ça allait mieux au deuxième trimestre, on commençait à anticiper des baisses des taux, la BCE avait délivré en juin, enfin, on avait une séquence qui était un petit peu plus positive et qui est quand même un peu en train de s'assombrir. Et donc, vous citiez à l'instant le VIX qui est à 12, en Europe, le VSTOX est autour de 16. Moi, je reste plutôt optimiste sur les marchés jusqu'à la fin de l'année, mais acheter des couvertures un peu en dehors quand c'est vraiment pas cher, acheter des assurances quand c'est vraiment pas cher comme aujourd'hui, là, franchement, il n'y a pas de raison de s'en priver.
Ouais. Et dans les marchés, qu'est-ce qui rend confortable ? Enfin, quel type de secteur, de segment, de thématique ? Je ne sais pas, est-ce qu'on est à l'aise avec les thématiques ? On parlera des matières premières, mais si Trump revient, est-ce qu'il faut être plus fossile que green ? Est-ce que la tech est évidemment toujours valable ? Mais est-ce que tactiquement, on a envie d'être un peu plus prudent ?
On a un peu envie d'être un peu plus prudent.
Puis les banques aussi, je veux bien qu'on parle des banques, toujours.
Et même si, effectivement, la thèse du broadening, de l'élargissement...
Ouais.
aux autres secteurs a pas très bien marché depuis un mois, hein, puisqu'on a revu rebondir la tech, rebaisser les banques et ainsi de suite. Moi, je pense qu'il faut continuer à la jouer. Nvidia, on a commencé l'année à 25 fois les résultats, là, on a 40 fois les résultats quand même. Hein, donc,
d'accord.
Quand même, il y a eu du chemin de parcouru. Oui. On citait tout à l'heure Tesla qui a rebondi de 40%, enfin, par rapport à un creux de moins 40% en year to date. C'est quand même des performances qui interrogent. Et surtout, moi, ce qui m'embête un peu plus, c'est l'écart entre le poids de ces valeurs et le poids de leurs résultats dans
C'est ce que vous disiez.
Ouais,
c'est plus d'un tiers, 30-33%
de poids dans l'indice, valeurs
et c'est que 23% des résultats.
C'est quand même
une petite déconnexion, là. Pour vous, c'est une petite déconnexion.
Ouais. Ouais.
Secteur bancaire en Europe.
Toujours. Moi, je suis toujours acheteur des banques. Je pense que même si les taux courts baissent un peu, c'est pas le moteur principal de la profitabilité des banques. Hein. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas de défaut et pas de crise bancaire. Il y a forcément une augmentation
des défauts. Et si on distribue un peu de crédit parce qu'il y a de l'investissement et des projets, c'est bien aussi.
C'est bon pour
les marges. Oui, mais est-ce que tout ça, c'est pas remis en cause aujourd'hui, Olivier ?
D'un niveau européen, pas encore.
D'accord.
Peut-être qu'en France, ce sera un peu remis en cause, mais au niveau européen, ça ne l'est pas.
Ouais. David, qu'est-ce qui vous intéresse dans les marchés actions, mais la partie, on n'a pas parlé de la partie taux crédit. Là aussi, je ne sais pas, d'ailleurs, est-ce que les émetteurs français ont été un peu plus secoués que d'autres sur le plan du crédit aussi depuis quelques semaines?
J'ai envie de dire un peu, mais pas trop.
Ouais.
Il n'y a pas
d'accord.
eu de... Voilà, bon. Sur le crédit, en fait, finalement, il y a plus eu des émetteurs qui ont été chahutés sur des nouvelles extrêmement spécifiques qui ont trait à leur entreprise, comme Eurofins, par exemple, sur lequel, là, le crédit a un peu bougé sur la publication du rapport Muddy Waters. Mais globalement, sur les émetteurs français, il y a eu un peu de mouvement, mais rien de catastrophique. Et donc, en fait, nous, là, on trouve, dans tout ce magma où on a du mal à y voir très clair, il y a un segment où on se sent extrêmement à l'aise, c'est la partie courte de la courbe allemande. Désolé, on n'est pas très fun, hein, voilà.
Ben non, mais bon.
Mais le 2 ans allemand, nous, ça nous va très bien comme endroit. Et on trouve qu'on est bien
rémunéré.
Il y a des perspectives de baisse de taux. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Olivier qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que dans tout ça, la BCE a encore plus de marge de manœuvre pour baisser ses taux. Voilà. Et la manière de le jouer le plus efficacement et de la manière la plus pure, c'est d'être sur la partie courte de la courbe
allemande,
où là, on sait en tous les cas que le mouvement de baisse des taux ne sera pas pollué par une prime de risque qui vient se rajouter à la dernière minute ou quoi que ce soit. Voilà, donc c'est pas très enthousiasmant.
Non,
mais pour le moment,
mais on capte du rendement et en plus, il y aura un peu de performance à venir demain sur cette
position d'attente.
Sur cette partie de la courbe. Eric, donc.
Toujours pas d'obligataire.
Ouais, ok. Pas de duration, quoi. Oui,
pas de duration. Oui. Pas de duration monétaire. J'ai utilisé un peu de mon cash là pour commencer à mettre des épuisettes dans des trucs que je trouvais aberrants. À la fois les mid, je reviens un peu sur des grosses.
Ouais, parce que c'est intéressant, les mid, alors françaises spécifiquement, ça a été moins 10 quand même là.
Ou moins 20.
Moins 20, là, bon, bah, d'accord. Ouais, donc, oui, pour certains, j'en sais rien.
Non, je dis moins 20 parce que je rachète à moins 20.
D'accord, donc, ok.
Voilà,
okay.
Ça a perdu moins 20, je rachète.
Okay.
Trigano, enfin,
ouais.
Et puis j'attends les résultats effectivement et j'ai du cash pour rejouer les grosses du CAC parce que enfin il n'y a pas de raison dans l'absolu qu'on baisse de cette façon là donc c'est cash, action et point.
Bon, on voit effectivement hein, c'est ce que je disais, le marché se stabilise, il y a eu 2-3 séances de baisse un peu appuyées au lendemain de la dissolution et puis ensuite on a fait un espèce de yo-yo autour des 7500-7600 pour le CAC 40 encore ce soir en clôture. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Eric Venet, directeur de la gestion de Montbleu Finance, David Calfon, président de Sansoyes et Olivier de Béranger, directeur général de la financière de l'Échiquier.